Radio Kapi.
Le journal Lievin Mwinga à la présentation.
Mesdames, Messieurs, bonjour à la une de l'actualité. Alerte au virus de Marburg qui sévit dans au moins trois pays voisins de la RDC. La ville de Goma est évidemment très exposée vu sa situation géographique. Cri d'alarme lancé par le médecin coordonnateur du programme élargi de vaccination Nord Kivu. Nous irons aussi à Genève pour entendre la chef de la MONUSCO Bintou Keïta, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, ainsi que la ministre congolaise des droits humains. Ils planchent tous sur la situation des droits humains en RDC au cours du dialogue interactif renforcé. Toujours dans ce journal, nous recevrons comme invité le médecin coordonnateur du programme élargi de vaccination Nord Kivu, Dr Hans Batei, va nous parler de la campagne de vaccination contre la variole de singe qui était à son quatrième jour hier mardi à Goma. Mais d'abord, cette information, le commissaire provincial de la ville de Kinshasa et son collègue de la Légion nationale d'intervention réhabilité et chacun à son poste. La nouvelle est tombée en début de semaine et confirmée hier mardi par des sources policières. La mesure met un terme à la suspension provisoire et permet au commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba de reprendre pleinement son travail. La journée d'hier mardi était d'ailleurs consacrée aux formalités d'usage, affirme la même source. Et sur terrain, plusieurs défis attendent le chef de la police dans la capitale congolaise. Il s'agit notamment de la lutte contre la recrudescence du taux de banditisme urbain, les tracasseries des hommes en uniforme, les nuisances sonores. Pour rappel, les deux commissaires divisionnaires adjoints avaient été suspendus le 31 août dernier. Ils étaient soupçonnés d'implication dans les affaires polémiques de déguerpissement d'un diplomate français à Gombe, ici à Kinshasa. Je le disais en titre, un virus qui semble être ignoré, mais qui avance tout de même, c'est le virus de Marburg qui sévit dans au moins trois pays voisins de la RDC. La ville de Goma est évidemment très exposée à ce virus vu sa situation géographique. Ce cri d'alarme est lancé par le médecin coordonnateur du programme élargi de vaccination au Nord Kivu. Selon lui, la ville voisine de Gisenyi au Rwanda a déjà notifié son premier cas confirmé, alors qu'à Goma, c'est aussi un premier cas suspect qui a été enregistré la semaine dernière. En attendant, des dispositions officielles qui devraient être annoncées par l'autorité provinciale, Dr Hans Batei recommande le respect des mesures barrières. Il est au micro de Bernardin Nyangi.
C'est une épidémie qui se vit dans plusieurs pays limitrophes, en Tanzanie, en Ouganda et maintenant. Depuis un certain temps, le Rwanda est en épidémie des virus de Marburg. Et la ville proche de la ville de Goma, la ville de Rubavu, à Gisenyi, on a eu un cas. Or, quand vous voyez Gisenyi et Goma, ce sont deux villes qui sont ensemble où la population se côtoie, il y a des mouvements d'entrée et de sortie. Et nous sommes le plus exposés à faire également cette maladie. Il y a eu même un cas suspect il y a quelques jours et on a prélevé l'échantillon et l'autorité, dès qu'il y a des résultats, il va prononcer par rapport à ça. Effectivement, nous devrons adopter un changement de comportement en respectant les mesures barrières, le lavage de mains, le screening partout où on passe, puisque le risque est très élevé pour la ville de Goma. Et quand quelqu'un a fait son séjour dans l'une de ces pays, il fait la fièvre ou il présente des signes anormaux, il doit rapidement informer.
Rappelons que le virus de Marburg, qui fait partie de la famille des filovirus, à laquelle appartient également le virus Ebola, il provoque une fièvre hémorragique similaire à Ebola. Une quarantaine de cas d'infection ont été recensés au Rwanda voisin depuis le 28 septembre dernier, causant au moins 12 morts selon les médias internationaux. Nord Kivu, toujours triste journée ce mercredi, au total 36 corps. Des victimes du tragique naufrage du 30 octobre dernier sur le lac Kivu seront inhumées aujourd'hui à Minova, Bweremana et Goma. D'après plusieurs sources, 15 parmi ces victimes sont originaires de Minova, 12 de Bweremana et d'autres de Goma. Cependant, des centaines de disparus seraient toujours sous l'eau, affirment les familles des victimes qui exigent que tous les corps soient repêchés. Un reportage de Sifa Maguru rendu par Grace Hamzati.
La société civile de Bouzi dans les territoires de Calais affirme que 13 corps des victimes de Minova seront enterrés dans un cimetière commun à Mubimbi et 3 autres à Bweremana par leur propre famille. En outre, près de 80 rescapés de ces naufrages suivent encore des soins médicaux pour certains, mais aussi un accompagnement psychologique pour d'autres. Sadiki Juge, président de la société civile de Bouzi, estime à plus de 500 les personnes disparues et dont les familles espèrent impatiemment de retrouver les corps afin d'organiser les obsèques dignes. Rappelons que la ministre des Affaires sociales a rendu visite ce mardi aux rescapés à l'hôpital général de Goma, mais aussi à l'hôpital de Kieshero, où elle a remis un lot de médicaments et de vivres en faveur des rescapés.
L'actualité, c'est aussi Genève. Les habitants de la RDC sont épuisés par la violence, le conflit et les horreurs de leur vie quotidienne. Ils ont besoin d'avoir surtout d'envisager un avenir. Déclaration hier mardi de Volker Türk, au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. C'était au cours du dialogue interactif renforcé sur la situation des droits humains en République démocratique du Congo tenu à Genève en Suisse. Selon lui, la situation des droits humains en RDC continue de s'aggraver sous nos yeux avec un mélange d'escalade de violence, d'intérêts régionaux et internationaux d'entreprises exploitantes et d'une faiblesse d'état de droit. Il affirme qu'entre juin 2023 et mai 2024, 85% de violences et atteintes aux droits de l'homme ont eu lieu dans les provinces touchées par les conflits. On écoute Volker Türk dans cet extrait proposé par Grace Hamzati.
Cette situation mérite l'attention immédiate de la communauté internationale afin que les armes se taisent et qu'un espace pour la paix puisse être créé. Le nombre de victimes de violations et d'atteintes aux droits humains et de violations au droit international humanitaire continue d'augmenter. Malgré certains efforts de prévention et d'enquête, les violences sexuelles se répandent avec 700 nouvelles victimes identifiées au cours de la seule période couverte par le rapport. Les groupes armés enlèvent, retiennent en captivité et soumettent les femmes et les filles à l'esclavage sexuel. Nombre d'entre elles ont été tuées après avoir été violées. C'est atroce. Le pays compte 23,4 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire, ce qui en fait le pays le plus touché par l'insécurité alimentaire dans le monde. J'en appelle à la communauté internationale d'accroître le financement de l'aide humanitaire. Les conditions de détention se détériorent dans toute la RDC. Dans les centres de détention gérés par les services de renseignement en particulier, un certain nombre de détenus sont soumis à la torture et à d'autres mauvais traitements, y compris des violences sexuelles, et sont détenus dans des conditions désastreuses, souvent sans accès à leur famille et à leurs avocats.
Nous allons à présent écouter la ministre congolaise des Droits humains. Dans sa déclaration au cours de ses assises de Genève, Chantal Chambou-Mwavita a affirmé qu'en termes des droits de l'homme, les avancées ont été enregistrées en RDC en dépit de certains défis auxquels le pays est confronté, notamment la guerre. Elle a ajouté que son ministère a lancé des enquêtes sociales dans le but d'identifier les problèmes auxquels les Congolais sont confrontés par rapport à leurs droits fondamentaux. On l'écoute, ses propos ont été sélectionnés par Grâce Hamzati.
Après le dernier dialogue interactif renforcé, mon pays a passé une période de 3 mois sans gouvernement, de plein exercice. En termes des droits de l'homme, des avancées notables ont été enregistrées en dépit des défis immenses, au premier rang desquels se place la guerre meurtrière dans la partie est de mon pays. Le chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a placé son nouveau mandat sous le signe de la consolidation des acquis, notamment dans les domaines de la promotion et de la protection des droits humains. Hélas, la guerre nous imposée par les forces négatives soutenues par certains pays voisins bride de la réalisation d'un tel objectif. Je me dois de réitérer mon indignation et ma protestation à l'encontre du protocole d'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda, en ce qu'il accrédite la thèse d'un complot ourdi contre la RDC et encourage le pillage des ressources naturelles congolaises par le Rwanda. Face aux violations graves des droits humains occasionnées par les conflits armés dévastateurs qui sévissent dans la partie est de mon pays et face aux autres défis, notamment financiers et sécuritaires, posés par les dits conflits armés, les autorités de la République s'emploient activement et méthodiquement à donner effet à leurs engagements internationaux et internes en matière de droits de l'homme.
Pour sa part, la chef de la MONUSCO s'est félicitée de l'appui continu du Conseil des droits de l'homme aux autorités congolaises pour appuyer le travail réalisé en matière de droits de l'homme en RDC. La chef de la MONUSCO salue également les efforts régionaux en cours et la signature de l'accord de cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda, tout en déplorant la crise sécuritaire persistante au Nord Kivu et en Ituri notamment. Madame Bintou Keïta affirme que la MONUSCO continuera de fournir son appui aux facilitateurs et à la SAMI-RDC, aux signataires des accords régionaux, mais aussi à la création d'un cadre de respect des droits de l'homme, d'où elle souligne la nécessité de préserver la liberté de mouvement de la mission onusienne pour qu'elle applique son mandat visant la protection des civils, l'alerte rapide, les mécanismes de riposte et la surveillance des droits de l'homme. Les propos de Bintou Keïta sont encore une fois recueillis par Grace Amzati.
Les provinces du Maïdombé et de la Tchopo continuent d'être elles aussi affectées par les attaques contre les civils, provoquant des pertes en vies humaines et des déplacements massifs des populations vers Kinshasa et Kisangani. Mr. President, ladies and gentlemen.
Les efforts faits pour pouvoir étendre les gains territoriaux par le M23 se sont élargis vers Lubero. Kanya Bayonga a été capturée au mois de juin après des combats intenses. Des hôpitaux ont été ciblés ainsi que des sites abritant des personnes déplacées. Des attaques contre les services humanitaires ont continué. Tous les efforts pour le moment visent à régler la situation dans le Petit Nord avec le M23. Le Codeco et l'ADF profitent de l'occasion pour semer le chaos dans d'autres parties du Nord Kivu et de l'Ituri. En même temps, les tensions entre la RDC et le Rwanda continuent. Au Sud Kivu, la MONUSCO a mis fin à ses opérations au mois d'avril et garde une présence. Je me félicite de l'engagement du haut commissaire à continuer de garder une présence robuste au Sud Kivu, notamment à Uvira, étant donné que c'est essentiel pour continuer de maintenir les gains faits pour protéger la paix et la sécurité à travers les années.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur Genève. Retour au pays, plus précisément à Lubumbashi. Le ministre d'État et ministre de la Justice a présidé lundi les consultations populaires. Objectif visé, recueillir les informations sur le fonctionnement de la justice dans cette ville du Haut-Katanga. Ce rendez-vous avec les Louchois s'est déroulé jusque tard dans la soirée à l'esplanade du palais de justice. À cette occasion, plusieurs personnes ont dénoncé les magouilles qui se font au niveau de la justice avec la bénédiction de ceux qui sont censés dire le bon droit. Constant Mutamba a promis de s'impliquer pour que plus jamais personne ne soit au-dessus de la loi. Suivez ce reportage de Jean Gandou.
Les dossiers qui ont été présentés au ministre avaient trait aux conflits fonciers, aux arrestations arbitraires dosées d'une justice à double vitesse. Il y en a qui ont dénoncé l'attitude de certains magistrats qui privilégient les plus offrants dans le traitement des dossiers. Le représentant de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la CENCO a d'une part évoqué le problème de la spoliation de la concession de l'archevêché par certaines autorités tant civiles que militaires qui, malgré la décision de la justice, ne veulent pas s'exécuter à cause notamment des interférences. Et de l'autre, il a indiqué que dans les soucis de préserver le vivre ensemble au sujet de la piste de Moulonde dans le territoire de Pweto, impliquant Moïse Katumbi, mettre la main sur ce dernier serait une manière de saper les efforts qui sont menés pour préserver le vivre ensemble dans la province. Répondant aux nombreuses préoccupations lui soumises, Constant Mutamba a indiqué que le temps de la justice de plus fort est révolu. Pour lui, ceux qui ont été irrégulièrement dépossédés de leurs biens devraient être rétablis dans leurs droits après vérification des dossiers qui lui ont été remis. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Je vous informe par ailleurs que le ministre de la Justice a instruit l'inspecteur général de la police judiciaire des parquets d'interpeller, suspendre et de procéder à l'arrestation immédiate de tous les agents de police judiciaire qui ont procédé à l'exécution barbare des mandats de parquet, notamment en filmant et en publiant les vidéos de Mademoiselle Marianne Toumba ainsi qu'en s'introduisant par effraction au domicile du journaliste Patrick Lokala, selon un communiqué du cabinet du dit ministère. Constant Mutamba rappelle que les arrestations ne peuvent en aucun cas être accompagnées des traitements dégradants des justiciables. Poursuite de ce journal avec cette troisième livraison de notre série de reportages sur la répartition budgétaire 2025 et la problématique des inégalités sociales en RDC. Les dirigeants du pays devraient arrêter de gaspiller inutilement l'argent du trésor public pour le concentrer sur les problèmes prioritaires de la population. C'est ce qu'affirme le député national Christian Mwandonsimba, une position partagée par Joseph Mabanga de la société civile. Pour ce dernier, l'argent dépensé dans les voyages officiels, le charroi automobile et les salaires exagérés des gouvernants doit désormais être affecté à l'éducation, aux infrastructures et dans le secteur producteur. Selon toujours Joseph Mabanga, il y a sûrement des rubriques budgétaires qui peuvent être supprimées pour que l'argent soit affecté aux secteurs sociaux de base. D'autres précisions avec Michel Kifindangoy.
À en croire Joseph Mabanga de la société civile, le budget 2025 devrait respecter les prescrits des articles 50 à 59 de la Constitution. Le luxe dans lequel vivent les gouvernants face à la misère de la population constitue une infraction de haute trahison en vertu de l'article 57 de la Constitution, ajoute Joseph Mabanga.
Mais ils ont un luxe désobligeant. Les charrois automobiles, l'achat de véhicules chaque année est près de nouveau modèle 150 000 dollars. Des salaires d'ordre de 50 000 dollars par ministre. Pourquoi faire ?
Pour le député national Christian Mwando, la solution à ces inégalités est la décentralisation.
Kinshasa a repris la gestion de l'ensemble du pays, mais Kinshasa ne gère que pour Kinshasa. La République de la Gombe est vraiment en marche. L'intérieur du pays est totalement abandonné. Tout l'argent se consomme à Kinshasa avec des dépenses inutiles, en voyage, en stade. On ne comprend pas où est l'intérêt des Congolais.
L'élu de Moba plaide pour une affectation rationnelle des ressources de l'État en privilégiant les dotations des provinces.
9 octobre, c'est aujourd'hui, c'est donc la journée mondiale de la poste, une journée instituée pour sensibiliser sur le rôle de la poste dans la vie quotidienne. La poste, ce service de distribution de courriers et autres colis à travers le monde, fait face actuellement à une concurrence due à l'évolution de nouvelles technologies. Que reste-t-il du service de la poste aujourd'hui en Ituri? Nous allons revenir sur ce sujet dans nos prochaines éditions.
Actualité internationale.
Des pluies exceptionnelles au Niger ont fait 339 morts et plus d'un million de sinistrés depuis juin, a annoncé mardi 8 octobre l'agence nigérienne de presse, un média d'État. Un précédent bilan du ministère nigérien de l'Intérieur faisait état le 4 septembre de 273 morts, plus de 700 000 sinistrés et 278 blessés dans ces intempéries qui ont touché tout le pays, dont Niamey, la capitale.
L'invité.
Nous recevons comme invité le médecin coordonnateur du programme élargi de vaccination Nord-Kivu, Dr Hans Batei, nous parle de la campagne de vaccination contre la variole de singe qui est à son 4e jour hier mardi à Goma. Cette campagne, lancée officiellement samedi 5 octobre pour 10 jours, cible 3 zones de santé de la région. 48 000 personnes devraient en profiter. Pourquoi avoir choisi de mener cette vaccination réactive ciblée? Réponse du docteur Hans Batei dans cet entretien avec Bernardin Nyangi.
Docteur Hans Batei, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Depuis samedi, vous avez lancé la campagne de vaccination contre la Mpox. Comment la campagne évolue?
Nous avons lancé la vaccination contre la maladie Mpox. C'est une vaccination ciblée, une vaccination réactive ciblée. On a lancé à Goma par le directeur de cabinet du ministre national de la Santé et Prévoyance sociale. On a lancé à l'hôpital provincial. Cette vaccination réactive ciblée va concerner les personnes de première ligne, le médecin, les infirmiers, tous les personnels des structures sanitaires qui sont en première ligne de contracter la maladie. Ça va concerner également les professionnels de sexe, puisqu'on a montré avec des évidences que la maladie se transmet aussi par voie sexuelle. On va vacciner aussi les contacts de cas. Quand il y a un cas confirmé, autour de ces cas, on a plusieurs personnes qui ont séjourné, qui ont mangé, qui ont habité avec la personne confirmée. Et c'est le probable malade de demain. Ils doivent également être protégés en recevant les vaccins. On va vacciner les éco-gardes, on va vacciner les vétérinaires, les vendeurs de gibier, en bref, toutes les personnes qui sont le plus exposées pour qu'on coupe la chaîne de transmission de la maladie. Nous serons en stratégie fixe au niveau de nos structures et en stratégie avancée. Et on aura également des stratégies mobiles comme les éco-gardes. On ne va pas les dégarnir dans leur lieu de travail. On va les suivre là-bas pour les vacciner.
Et cela pendant 10 jours?
Cette vaccination va faire 10 jours de manière générale, mais au niveau des structures, pour les contacts des cas, ça pourra se poursuivre. Mais c'est pendant 10 jours d'abord pour protéger la population et espérer couper la chaîne de transmission de la maladie.
Dans toutes ces catégories de personnes ciblées, est-ce qu'il y a un certain effectif qui a été projeté?
Bien sûr, avant qu'on commence la vaccination, nous avons fait ce que nous appelons la microplanification à la base, avec la cartographie, puisqu'on doit savoir où se trouvent ces personnes, comment nous allons faire pour les atteindre. Pour notre province, nous avons les trois zones de santé hotspots. C'est la zone santé de Goma, qui a plusieurs cas de Mpox. Nous avons la zone santé de Nyiragongo, qui vient en deuxième position, et enfin la zone santé de Karisimbi. C'est les trois zones qui regorgent les gros des cas que nous avons déjà notifiés au Nord Kivu. Plus de 300 cas notifiés au Nord Kivu.
Et donc, cette campagne concerne seulement ces zones-là qui ont été ciblées ou bien il y a d'autres zones, puisqu'on parlait aussi un moment de la zone de santé de Nyamilima, par exemple, ou d'autres zones de santé un peu plus au nord, comme autour de Butembo.
Effectivement, on a fait la priorisation en termes de risques. Le Nord Kivu en soi, nous avons les trois zones santé hotspot qui ont notifié le plus de cas, plus de 50 cas que les autres. Et dans toute la province, nous avons environ 13 zones de santé qui ont notifié des cas. La zone de Mutuanga et la zone de Kiondo qui ont notifié 4 cas, 4 cas. D'autres zones ont notifié un cas. À ce moment-là, cette priorisation a tenu compte de la vulnérabilité. Parce que vous savez qu'à Goma, on a environ 2 millions de déplacés internes et qui sont dans des conditions de promiscuité, vulnérabilité. Et on a déjà eu même des cas de Mpox. Vous savez, dans la réponse, il y a d'autres mesures, notamment des mesures PCI, des mesures de communication de risque et engagement communautaire, des mesures de prise en charge. Dans d'autres zones de santé, on poursuit avec d'autres mesures le temps d'avoir la planification pour poursuivre la vaccination dans ces zones.
Est-ce qu'il y a une autre prochaine étape après cette campagne ici de vaccination qui va prendre 10 jours?
C'est une campagne qui va se passer en deux phases. Donc la première phase commence depuis le 5 jusqu'au 17. La deuxième phase interviendra 28 jours après, 4 semaines, pour booster l'immunité et pour être complètement vacciné. Donc, on aura rendez-vous.
Les mêmes personnes
qui ont reçu la première dose, c'est elles qu'on va poursuivre pour la deuxième dose.
Docteur Hans Batey, merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Martin Sebujangwe, Pelé Kipela Mondo, Junior Kamunga et à Dieudonné Nyangasa.